Cogeco Nouvelles.
24 avril, mercredi, ici Guissimard. Un grand jury de l'Arizona a inculpé aujourd'hui l'ancien avocat et conseiller de Donald Trump, Rudolph Giuliani, son ancien chef de cabinet Mark Meadows et une quinzaine de personnes pour avoir tenté d'interférer dans les résultats de la présidentielle de 2020. Ces républicains sont soupçonnés, entre autres, d'avoir soumis au Congrès des documents censés prouver que Trump avait battu Joe Biden lors de l'élection. Parmi les gens inculpés, 11 personnes avaient prétendu être de grands électeurs habilités à déclarer Trump vainqueur de l'élection, alors qu'en fait, il n'en était rien. Ils avaient signé un document en ce sens le 14 décembre 2020, avant de le soumettre au Congrès et aux archives nationales. Joe Biden a remporté le vote en Arizona par plus de 10 000 voix. C'était aujourd'hui la première de deux journées de grève des 5 000 employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec. La grève se poursuivra demain. Annie Guillemette.
Les employés de la Société d'État ont encore 13 jours de grève en poche. Si on suit les messages sur le terrain, ils seront utilisés parce que la grogne est palpable, autant de la part de la présidente de la CSN, Caroline Senneville, que des employés eux-mêmes.
Après 5 ans de travail à la SAQ, on ne connaît pas nos horaires de travail, on n'a pas de poste, on n'a pas d'assurance collective.
Je suis capable de savoir si je vais travailler dans deux semaines.
Il y en a pour qui les horaires, c'est dernière minute, c'est pas le fun.
On essaie de marquer le coup pour faire comprendre qu'on veut que les choses avancent.
À Montréal, les syndiqués ont même investi le palais des Congrès pendant plus d'une heure. Le choix du moment et de l'endroit de leur manifestation n'était donc pas anodin. Les dirigeants de la SAC qui sont en réunion nationale pour deux jours. Il y a donc un impact important sur la capacité de la société d'ouvrir des succursales avec des cadres. Porte-parole de l'organisme, Yann Langlais-Plante.
On parle à peu près entre 35 et 40 succursales, là, étant donné la disponibilité des gestionnaires.
Annie Villeneuve, CGT Nouvelles, Montréal.
L'échéancier de mise en service du REM à Montréal est frappé par un nouveau report. La complexité des travaux dans le tunnel Mont-Royal en est l'une des raisons. Alors, les branches de Montagne et de Lens à l'Orme, donc vers le nord et vers l'ouest, ne seront pas ouvertes d'ici la fin de l'année comme prévu, au mieux quelque part vers la fin 2025. Ce nouveau report fait dire au député solidaire Alexandre Leduc que le fait de confier le projet à la Caisse de dépôt et placement du Québec n'aura rien changé.
On nous avait promis à l'époque des libéraux que la Caisse de dépôt et placement allait révolutionner le transport collectif, ça allait être donc bien plus efficace, puisque c'était vraiment la meilleure chose depuis le pain tranché. Ben, regardez donc, c'est compliqué du transport collectif. C'est un investissement, c'est pas nécessairement quelque chose qui rapporte de l'argent. Puis c'est pas parce qu'on le donne à la Caisse de dépôt et placement que la baguette magique va aller plus vite.
La pandémie et les explosifs dans le tunnel du Mont-Royal sont les raisons de ce report. La présence policière augmentera partout au Québec d'ici le début mai pour sensibiliser les gens à la sécurité routière.
Des centaines d'automobilistes et des dizaines de piétons meurent chaque année au Québec lors de collisions routière. Un lourd bilan qui doit être amélioré selon les corps policiers qui s'unissent et qui intensifieront grandement les interventions et les opérations de visibilité sur l'ensemble du territoire pour une semaine à partir de vendredi. Francis Bernardin de la SQ.
Lorsqu'ils voient une présence policière accrue, vont sensibiliser davantage à l'adoption de comportements sécuritaires et responsables.
Tous les corps policiers dans toutes les régions de la province vont participer à cette opération nationale concertée qui mettra l'accent cette année sur la protection des cyclistes et des piétons.
C'est sûr que les endroits qui vont être davantage ciblés, on parle d'endroits où il y a un partage de la route qui se fait.
140 piétons sont décédés au cours des deux dernières années au Québec. Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
En terminant, un homme de 32 ans qui a forcé aujourd'hui le bref confinement d'une école de Joliette a été arrêté, accusé de possession d'une imitation d'armes dans un dessin dangereux et de bris de conditions. Le confinement n'aura duré que quelques minutes. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
8 de la neige ce soir, cette nuit à Québec. 7 demain, ce sera généralement ensoleillé. Soleil vendredi et samedi, 11 et 16. Retour des averses dimanche. Le maximum à ce moment sera de 14. Trois-Rivières, moins 7 et 8, généralement ensoleillé demain. Sherbrooke, de la neige cette nuit, moins 9, 6 demain du soleil. Gatineau, moins 6 et 10, ensoleillé demain. Tout comme à Montréal, minimum moins 4, maximum de 9.
Cogeco Nouvelles.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Nous voilà de retour, deuxième heure de l'émission de ce soir. Un gros merci d'être là. Je vous lance tout à l'heure la question que je vous propose en tribune téléphonique. On va commencer ça dans l'heure que nous amorçons à l'instant, dans environ une trentaine de minutes. Juste un petit coup d'œil, un détour par la LPHF pour vous dire que de 1 à 0, le pointage a évolué. C'est maintenant 4 à 1 pour Montréal contre New York. Ça se passe à l'auditorium et il reste 16 minutes à faire en troisième période. Actuellement, au pointage, on sait que c'est Catherine Daou qui avait ouvert la marque. Christine O'Neill a enchaîné des passes à Marie-Philippe et Irene Ambrose. Catherine Dubois, son deuxième. Laura Stacey, son neuvième. Et puis, réplique de New York en toute fin de deuxième période. La réplique est venue de Ella Shelton. 4 à 1, donc Montréal. Isabelle Étier sera avec nous en fin de soirée pour nous parler de cette rencontre. Maintenant, il revient d'un beau voyage. Je ne sais pas si c'était un beau voyage, mais d'un voyage certainement intéressant pour quelqu'un qui se pose des questions. Hier, quand je demanderais à André Tourigny, as-tu hâte d'aller à Salt Lake? Qu'est-ce que tu as hâte de voir? Il dit, toute la soirée, il me faisait la liste de tout ce qu'il avait hâte de voir. Guillaume Lefrançois, journaliste à la presse, participant régulier à Sortie de zone, est avec nous en studio. Il est venu en Bixi à part de ça. Salut, Guillaume. C'était pas trop frisquet?
J'avais mal aux oreilles. Hein. Enfin, j'ai pas mis Mathieu, que je l'avais dans mon sac à dos. Et comme un beau niaiseux, je l'ai pas mis. Donc, j'avais vraiment mal aux oreilles.
Tu retournes-tu en Bixi? Là, t'es un vrai de vrai.
Je vais prendre le métro en revenant. Comment ça fait froid, là?
Alors, commençons par ta visite à Salt Lake City. Ben, c'est une bonne idée, premièrement, d'avoir décidé d'aller là, parce qu'on est tous intrigués. C'est pas une ville, bien que c'est une ville qui a reçu, une région qui a reçu les Jeux Olympiques. On se rend compte que c'est pas une ville qu'on connaît beaucoup.
Hein. Ben, c'est ça. C'est une partie de la logique derrière la décision d'y aller, justement. C'est-à-dire, cette ville-là, nous, justement, dans le milieu des médias sportifs, on connaît tous un peu des gens qui ont été, notamment à cause des Jeux Olympiques, justement. On a tous des collègues, des amis qui ont été. Mais, monsieur, madame, tout le monde, mis à part les gros fans de ski, qui ont pu aller dans les stations de ski de la région. Je peux pas dire que je connais beaucoup de monde. J'ai quelques amis qui ont vu des parcs nationaux. Il y a le parc national Bryce, entre autres, le Bryce Canyon, qui est c'est des trucs absolument magnifiques, mais là, t'es à 3-4 heures de Salt Lake City. Là, c'est rien dans la ville même. Donc, c'est ça. Ça reste une ville qui est quand même relativement mystérieuse. C'est une ville qui a longtemps eu une seule équipe de sport professionnel. Là, maintenant, bon, ça s'est grossi avec le soccer, mais pendant longtemps, c'était seulement le Jazz de l'Utah. Donc, tu sais, c'était pas une ville qu'on était appelé à connaître beaucoup. Donc, il y avait quelque chose quand même à faire découvrir aux gens d'ici en se rendant là-bas.
La population de la ville même, c'est très peu. Là, je pense qu'on parle de 220 000 ouais, personnes, grosso modo. Sauf que, comme toutes ces villes-là, il y a la metro area qu'on appelle, là, la région métropolitaine. Là, on parle plus de 2 millions et plus. Hein?
Ça dépend des définitions, là, mais disons, la principale que j'ai vue, c'est 1,2 million comme bassin de population de la région. Donc,
probablement que c'est la troisième couronne quand on dit que ça grimpe. Parce que j'ai vu 2,7 quelque part, on comparait
Il y a plein de façons de le mesurer.
On inclut Sherbrooke si on transpose.
Mais dans l'Utah en général, c'est 3,7 millions. Donc, tu sais, ça reste que c'est pas... Je veux dire, plus qu'on parle de Phoenix, puisqu'ils arrivent de là, le marché de Phoenix, comme la région de Phoenix, c'est 5 millions. Alors, seulement dans la ville, dans le marché de Phoenix, t'as plus de monde que dans l'Utah au grand complet. Donc, tu sais, c'est sûr que il n'y a aucun doute, la Ligue nationale va dans un plus petit marché, mais elle espère que ce soit un marché plus robuste.
Quelles étaient les questions que tu avais en tête en arrivant là-bas?
Ben c'était beaucoup, premièrement, c'est ça, d'avoir un peu une idée de à quoi se ressemble cette ville-là, à quoi ressemble l'aréna aussi, c'est quoi leur situation d'aréna. Tu sais, Gary Bettman, dans sa conférence de presse, à un moment donné, il a fait une petite blague là, en disant...
pas de drama.
Non, exact, no arena drama. Ben, on en a vécu assez comme ça, puis c'est donc, tu sais, alors à quoi ça ressemble cette aréna-là? Est-ce qu'il va y en avoir du drama? On verra. Mais c'était assurément un des trucs que je me demandais. Ensuite de ça, à quoi ressemble justement l'intérêt pour le hockey dans cette ville-là? C'est sûr qu'il n'y a pas un million de façons de le mesurer à ce temps-ci de l'année quand il n'y a pas de hockey là-bas, puis le hockey mineur ralenti. C'est pas un gros marché de hockey mineur non plus. Mais tu sais, moi, tout le matin que j'étais là, le vendredi matin, qui était le matin de la conférence de presse, ben je me suis branché sur la radio sportive. Ce qui est vraiment drôle, j'ai syntonisé la radio à 9h40 le matin. Et là, c'était une entrevue avec l'entraîneur des alliés rapprochés de Brigham Young University. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, OK, donc clairement, ça fait pas jaser, là, OK. l'émission a continué et finalement, c'était à peu près le seul contenu football qu'il y a eu dans l'émission. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur le hockey.
Fait que la nouvelle a fait boom de l'arrivée du club là-bas. Là.
Oh, oui, vraiment. C'est plus que ça à quoi je m'attendais. C'est sûr que tu sentais que les animateurs n'étaient pas nécessairement les plus grands connaisseurs de hockey, mais la nouvelle avait capté leur attention. Ils en parlaient. Alors, les amateurs de sport qui écoutaient ces émissions-là dans leur retour vers la maison, ben ils se sont fait parler du hockey et ils étaient clairement au courant de ce qui se passait.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'aréna qui abrite le Jazz de la NBA avec une capacité réduite, même plus petit qu'à Winnipeg, je pense. Hein?
Ça dépend des définitions encore là. Premièrement, c'est un bel aréna là, ça. Je veux dire, tu sais, c'est pas nécessairement récent, mais c'est quand même très bien. Je trouvais que tu sais visuellement ça sortait bien, puis ça avait pas l'air d'un mm-hmm. De toute façon, c'est pas ça date pas non plus de 50 ans là, c'est correct. Mais bref, c'était bien. Le nombre de places, c'est que c'est 12 000. On a beaucoup vu passer le chiffre de 12 000. 12 000, c'est qu'il y aura 12 000 billets avec des vues qui ont appelé parfaites. C'est-à-dire des vues qui sont pas obstruées. Tu vois toute la glace, tout est beau. Mais dans les faits, ils vont ouvrir à 16 200 de capacité. À 16 200, t'es quand même à plus qu'à Winnipeg.
Ah, quand même?
Winnipeg, c'est 15 000. Donc, 16 200.
Ah, j'ai été induit en erreur dans ce cas-là.
Mais
moi,
ça veut quand même dire que le quart des billets, ça veut dire qu'il va avoir la vue obstruée. Alors là, dans quelle mesure ça sera obstrué, il faudra voir. On a tous hâte, je pense, de voir les photos des premiers matchs préparatoires.
Oui.
Comme on le voyait dans le temps à Brooklyn quand les Islanders avaient déménagé au Barclays Center. Et que justement, on voyait ces fameuses photos de fans qui disaient, ah, ben regardez, on voit pas du tout le coin, on voit pas le but, donc on verra à quoi ça va ressembler. Et le but, c'est de se rendre à 17 500 dans 2 ans. Alors là-dessus, quelle proportion on va avoir?
Ils vont rénover par an?
Oui, exact. C'est ça, ils vont vraiment réaménager.
On parle pas de nouvel amphithéâtre?
Non, pas pour le moment, non. Ils veulent vraiment rester au centre-ville. Par contre, on sent qu'il y a une certaine... On sent qu'il pourrait y avoir un petit bras de fer avec la ville
oui,
à ce sujet-là, parce que à un moment donné, le propriétaire de l'équipe, Ryan Smith, dans son point de presse, il a dit, vous savez, ça serait vraiment facile pour moi de simplement m'en aller au sud de la ville, parce que bon, il y a un terrain, le propriétaire détient un terrain là-bas, puis il dit, là-bas le terrain il est prêt à construire, c'est plat, ça serait facile d'aller là, puis ça me coûterait beaucoup moins cher qu'une parcelle de terrain au centre-ville, donc ça serait facile, mais je veux rester au centre-ville parce que c'est là qu'une équipe doit être, et puis on veut que ça fasse partie de l'expérience du centre-ville, on veut que ça redynamise le centre-ville. Alors, tu sais, il a quand même fait un plaidoyer pour le centre-ville, mais il a quand même rappelé qu'il y avait cette option-là d'aller au sud de la ville. Alors, faudra voir. Ce pourquoi je crains un bras de fer, c'est qu'en mars, le propriétaire avait fait une sortie dans les médias, justement, en disant, il faut réinventer le centre-ville, faut revoir l'expérience, et faut investir dans notre centre-ville pour y redonner de l'amour. Alors, évidemment, quand un propriétaire privé dit ça, c'est pas nécessairement que son argent à lui que ça implique. Ça peut être l'argent de la ville aussi. Il est question d'une hausse de taxes pour financer ça. Alors, c'est pour ça que c'est pas tout est pas
il y a
non
des
plus.
Enjeux
il reste
Gary
des enjeux,
ne souhaite pas de drama, mais on sait jamais,
c'est ça, il en
le
souhaite
drama
pas.
S'invite parfois là où on ne l'attend pas,
exact. Ce qui joue en sa faveur par contre, c'est qu'il semble être près du pouvoir. Tu sais, à la conférence de presse, la mairesse de Salt Lake était là, la mairesse du comté était là, le gouverneur était là, le président de Brigham Young University, qui est la principale université de l'Utah, était là aussi, et dans une société quand même, c'est un petit monde de l'Utah. Alors le fait d'avoir toutes ces tous ces poids lourds-là, locaux, s'en disaient long quand même sur l'influence de Ryan Smith. Alors, tu sais, je pense
c'est
que
bon
c'est quelqu'un
signe,
qui part... Ben c'est ça, il part sur un meilleur pied que ce qu'on a vu en Arizona, où le propriétaire se chicanait avec à peu près chaque ville qui existait.
Je sais pas si à travers tout ça, tu as eu le temps de regarder le nouveau documentaire d'Amazon, Saving Sakic.
Malheureusement, ça a l'air fascinant.
Ben écoute, c'est pas long, c'est un documentaire d'une cinquantaine de minutes. Fait que tu sais, c'est pas une affaire, une série de 4 épisodes. Ça s'écoute assez vite, là, une heure d'elliptique, puis boum. mais il y a de quoi d'intéressant. Il y a de quoi, j'ai trouvé, premièrement, ça nous rappelle le départ des Nordiques. Ça, c'est bien triste. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas tourner le fer dans le plein. Mais par rapport à l'arrivée de l'avalanche là-bas, ils gagnent en partant, mais ils sont dans un vieil amphithéâtre. Puis ils savent bien quand arrive l'offre des Rangers pour venir leur shipper sa kick, puis en envisageant le futur, puis ils ont laissé partir leur club de basket, eux autres. Non, pas de leur club, pardon, mais un joueur étoile de leur club de basket. Puis ça a détruit l'enthousiasme pour l'équipe dans le temps, pour les Nuggets, pardon. Et là, ils se sont dit, le même propriétaire, Charlie Lyon, il dit, quand le cas sa kick est arrivé, il dit, je peux peut pas. Puis le maire avait vécu ce qui est arrivé que à cause du manque de revenus avec un amphithéâtre désuet, que le club avait été obligé de laisser partir leur star dont le nom m'échappe, des Nuggets. Fait que le maire, c'est là que le maire, parce que ça niaisait, puis il y avait la game de relations publiques, le maire, il, tu sais, tu veux pas te brûler auprès de tes électeurs, mm-hmm. tu donnes cuit dans le bec à l'équipe sportive, etc. Fait que, mais à un moment donné, c'est le maire qui a comme un peu, si je me souviens bien, là, j'ai regardé ça.